RMC.
J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année.
Where is the casque for John?
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
After Lyon,
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL tous les mardis, dispo sur toutes vos plateformes habituelles. L'équipe cette semaine, bah c'est les titulaires, quelque sorte notre père Loukéba, Thiago Mendes, Roland Courbis et Edouard Jay. Salut coach.
Salut les amis.
Et salut Edouard en direct de Lyon.
Salut, salut. Bon, tu précises pas qui est le Castello et qui est Thiago.
Bah, je vous laisse vous mettre d'accord hein, sur qui est qui quoi, bon. Réfléchissez.
Allez, je vais prendre le mauvais rôle. Je vais prendre Thiago Mendes.
Deux matchs, les gars. Zéro point et beaucoup de doutes. Sale semaine pour l'Olympique Lyonnais. Battu à Lorient, battu à Monaco 4 jours plus tard. Et une constante sur ces deux défaites. La défense. Catastrophique. Peter Bosz est-il prisonnier de ses choix? Derrière, on en débat dans un instant. Et puis, on va aussi se poser la question de la préparation estivale. Parce qu'on voit pas mal de trous d'air dans les matchs de l'OL. La fameuse préparation intégrée. En est-elle la cause? On va rentrer dans le détail de cette préparation à la mode avec Guillaume Thora, ancien préparateur physique de Lyon. Défaite 3-1 à Lorient mercredi, 2-1 à Monaco dimanche, deux défaites très différentes mais avec un gros point commun, la défense et en particulier Thiago Mendes. Edouard, c'est vrai que sur les deux matchs, il y a au moins deux, voire trois buts qui sont pour lui et à côté de ça, un nombre d'erreurs assez incroyable.
Ouais, incroyable. Donc c'est vrai que le 2-0 rapide à Lorient, alors que Lyon était plutôt dans une bonne phase, ben c'est de sa faute d'une certaine manière. Après il y a beaucoup de placements qui sont pas forcément évidents. Et puis après il y a eu aussi ce côté, alors notamment sur le coup de pied arrêté. Donc l'un des deux à Monaco est pour lui, mais on sent d'une manière générale, ben c'est logique, hein, c'est pas un défenseur de métier, donc il a pas cette culture. Culture du duel, d'aller faire mal dans son dans les impacts, faire mal dans le bon sens du terme. Alors c'est vrai qu'il a une belle lecture du jeu parfois, c'est vrai qu'il rentre plus dans le jeu de Peter Bosz qui veut du jeu léché, notamment partant de derrière. C'est vrai qu'il a cette technique du milieu de terrain, mais fatalement quand on a fait 25 ans de milieu de terrain et qu'en 6 mois on s'improvise pas défenseur central, n'est-ce pas coach?
Ah ben oui, disons que tu peux faire un dépannage, c'est ce qu'il est en train de faire, et on ne peut pas, disons, ne pas être content d'un dépanneur qui dépanne. Maintenant, c'est sûr que si on attend, et qu'en quelques mois, il va avoir la présence, les astuces, le placement d'un arrière central, non, ça serait un phénomène qu'il n'est pas.
Alors, on va écouter son coach parler de Thiago Mendes et de cette place en défense. Précision, c'était Peter Bosz cette semaine en conférence de presse. C'était vendredi, donc on est après le match de Lorient et avant le match contre Monaco. Peter Bosz sur Thiago Mendes, défenseur central.
On a vu des matchs cette saison, mais aussi déjà la saison dernière, où avec lui, on a peu de buts encaissés et surtout aussi peu d'occasions contre nous. Donc encore une fois, est-ce qu'il a fait des erreurs le dernier match? Absolument, tout le monde a vu ça, lui au premier. Mais est-ce qu'il est capable de faire son job sur ce poste bien? Absolument.
Alors, c'est ça la question. Lui répond absolument, mais est-ce qu'il est capable de faire bien ce job à ce poste, Roland?
Mais non, moi je ne m'arrête pas qu'à Mendes. Je viens de dire ce que j'avais envie de dire, ça me paraît être une évidence. Mais ensuite, ce que je regarde, c'est... Le gabarit sur le plan athlétique des deux arrières centraux, et Dieu sait que ce sont de très bons joueurs. Loukéba qui manque d'expérience, mais c'est d'ailleurs dans le présent et dans un futur très très proche un très très bon arrière central. Je pense que sur le plan athlétique, dans le jeu de tête, c'est insuffisant. Je ne dis pas qu'à ce poste-là il faut avoir deux basketteurs. Mais quand même, donc quand je vois un corner et l'équipe de Lyon sur un corner, je me dis, oh, il manque quand même 2-3 grands. Là, hein. Et ensuite, n'oublions pas que du côté de Mendes, il y a Malo Gusto qui est très intéressants sur le plan offensif, comme peut l'être Attal du côté de Nice, comme le peut l'être Hakimi du côté de Lyon, mais qui sont très moyens sur le plan défensif. Donc, Mendes, moi pour moi, oui. Mendes, arrière central côté droit d'une organisation à trois arrières centraux avec un axial, un bon gabarit, un Ramos, un Boateng, un Hilton de Montpellier de l'époque. Oui, mais quatre défenseurs, disons que regardons tout simplement le calendrier. Donc, Peter, et je comprends, je me mets à sa place, il défend ses joueurs, mais là, qui prennent un petit peu conscience de la situation et de l'adversaire qui arrive. Imaginons qu'il t'arrive.
L'adversaire qui arrive, c'est le Paris Saint-Germain,
un Paris Saint-Germain avec un Mbappé qui retrouve la forme, que ce ne soit pas le Mbappé du dernier match contre Brest où il a eu les occasions, mais il n'avait pas eu l'efficacité. Mais sur ce côté droit de Lyon, mais ça peut être un massacre.
Donc, Mendes pas aidé aussi donc par le système et ceux qui l'entourent, coach. Mais Edouard, Thiago Mendes qui joue en défense centrale, on a besoin d'un éclaircissement de ta part. Qui a voulu ça en fait ? Est-ce que c'est Peter Bosz qui a dit cet été, Thiago Mendes, je le fais descendre, défenseur central, c'est bien, pas la peine de recruter ? Ou est-ce que finalement, il subit ce que sa direction lui a dit, on n'achètera pas de défenseur, et donc lui a dit, je fais descendre Mendes ? Comment ça s'est passé déjà ?
C'est un choix clairement de Peter Bosz, clairement, parce que en fait, dans l'absolu, il y a quatre défenseurs centraux de métier dans l'effectif. Castello Luqueba, alors lui l'on voit tout le temps, Damien Da Silva, Jérôme Boateng et Sinali Diomandé. Donc c'est quatre profils différents, quatre histoires aussi à l'intersaison différentes, parce que Damien Da Silva, certes, lui était là, mais on a essayé un petit peu de le faire partir.
Denayer qui n'est pas tombé d'accord.
Alors, Denayer, j'y viens. Alors, Denayer, lui, est parti libre, mais aujourd'hui, au 13 septembre, il n'a toujours pas de contrat nulle part. Donc, voilà, pour quelqu'un qui voulait partir libre. Mais donc, Damien Da Silva, lui, était un petit peu sur le départ, mais il est resté. Jérôme Boateng, c'était aussi, à un moment donné, il a toujours été dans la préparation en équipe B, on va dire, parce qu'il y avait deux groupes. En plus, après, à un moment donné, il s'est blessé, mais il est encore là. Et puis après, il y a le cas de Sinali Diomandé. On en parle depuis cette fameuse première minute de ce Lyon Marseille du 21 novembre dernier, vous imaginez, c'est quand même le mec qui a pas de peau, le joueur de l'année dernière qui a pas de peau, il se blesse dans le match le plus court de l'histoire de l'année dernière, parce que c'est lui, sur son geste qui amène le fameux corner avec la bouteille derrière de Dimitri Payet, il se blesse là-dessus, il tente de revenir début janvier, mais finalement il joue une minute face à Marseille dans ce fameux match remis au mois de février, mais la douleur est trop importante, donc il se fait opérer, donc lui il sort d'une saison blanche, donc il faut qu'il revienne, lui il a rejoué en équipe réserve ce week-end, il a même marqué avec l'équipe de Gaïda Fofana et Jérémy Bréchet. Donc voilà les quatre joueurs défenseurs centraux qui sont là, parce que Jérôme Boateng a repris avec le groupe la semaine dernière, mais clairement c'est un choix de Peter Bosz et clairement c'est lui qui a poussé pour qu'il le prolonge, parce qu'il a prolongé, et puis il a prolongé en plus en tout état de cause. Il savait quand il a prolongé que c'était pour jouer défenseur central.
Et du coup, coach, on entend Edouard, il est coincé un peu Peter Bosz finalement, parce que c'est son idée, elle se révèle pas terrible finalement, mais est-ce qu'il peut l'enlever maintenant ? C'est son choix, c'est compliqué quoi.
Il peut l'enlever, je dirais, allez, quelques matchs. Il peut aussi changer de système et se dire, tiens, finalement, on va non pas abandonner le système que nous avons, à savoir un 4-3-3, mais on peut aussi habituer une équipe et un effectif à deux systèmes, et notamment ce système à trois arrières centraux qui permettrait à Thiago Mendes de sécuriser le côté droit et comment il s'appelle, Mal Augusto en a vraiment besoin. Et de se dire, tiens, on peut aussi démarrer dans ce système-là. Un exemple pour le match de Monaco. Je vous donne une idée. Je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est la mienne. Et puis vous...
Au pire, on transmettra. Peter.
Voilà, donc voilà, exactement. Donc, on ne va pas s'amuser à faire les professeurs de Peter Bosz, mais on peut ne pas être d'accord et de se dire, tiens, un modeste petit conseil. Je crois que la formule pour poser des problèmes à Paris Saint-Germain, il y a pour le moment un club qui l'a trouvé, c'est le Monaco, justement, le dernier adversaire de Lyon. Et cet adversaire de Lyon, mais n'a pas donné une leçon de football à Lyon dans le dernier match. Par contre, ils ont posé des problèmes avec cette équipe de Monaco. On a posé des problèmes du côté de Paris Saint-Germain avec trois arrières centraux et à tour de rôle, l'arrière central côté droit qui montait d'un cran au milieu faire comme un rôle de numéro 6, l'arrière central côté gauche qui montait d'un cran au milieu pour faire un rôle de numéro 6, et on a vu ce Monaco. Mais là, c'est pas seulement de se dire le prochain match, il va falloir trouver la bonne solution. C'est pas seulement qu'il va falloir trouver la bonne solution après deux défaites. Il va falloir trouver la bonne solution contre une équipe qui, en forme, est tout simplement injouable. Le Paris Saint-Germain, qu'on aura l'occasion du côté de Lyon de voir tranquillement demain à Tel Aviv. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas seulement penser qu'il y a le match d'après Monaco. Non, il faut penser aussi à l'adversaire qu'il y a après Monaco. C'est le Paris Saint-Germain, en plus chez toi, devant un public et un stade plein à craquer, et tu vas avoir une défense avec le Malogusto Mendes. Mais je souhaite à Peter de ne pas se tromper, mais je suis un petit peu inquiet quand même.
Bah tiens, Edouard, ce que propose Roland, est-ce que tu sais, toi, là-bas, si c'est une idée que Peter Boss a en tête éventuellement de passer à 3 derrière?
Alors moi, on me dit qu'il va falloir que le staff aide un petit peu, c'est un suiveur très très proche du groupe qui me dit qu'il va falloir que le staff aide un petit peu Peter sur cet aspect-là. Donc est-ce que ça veut dire en creux qu'il faut une évolution? Surtout que des fois, on l'a vu l'année dernière, ce schéma-là, mais clairement, et pour faire juste un clin d'œil à Jean-Luc Godard aujourd'hui, sa formule, elle est à bout de souffle avec Thiago Mendes. Donc là, il va falloir vraiment changer des choses. Et puis là, c'est de la palissade que m'a glissé quelqu'un d'autre. Si tu ne changes rien, rien ne change. Donc là, avec les mêmes ingrédients que les deux derniers matchs, parce qu'on l'avait déjà bien vu, il n'y a pas que ces deux matchs de cette semaine. Coach Thibault, on en a parlé aussi là la semaine dernière ou il y a 15 jours. Les victoires, les premières victoires, c'était contre des équipes qui vont plutôt jouer le deuxième partie de tableau. Et malgré ça, il y a quand même quelques trous dans la raquette derrière, même si la statistique veut aussi, et c'est là-dessus sur laquelle s'appuie Peter Boss, que c'est l'équipe qui a concédé le moins d'occasions jusqu'à c'était une statistique avant les matchs de cette semaine. Donc il y a des choses qui sont là, mais il va falloir quand même changer quelque chose. Était obligé de passer, je pense que il n'y a pas à se poser mille questions. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une solution, c'est celle-là. Parce que même si tu peux rester en 4 défenseurs, mais soit Damien Da Silva, soit Sinali Diomandé, ça ne leur pas forcément leur rendre service à eux de les lancer dans cette situation-là.
Et Jérôme Boateng, messieurs, il est comment? Il est dans quel état, Edouard? Parce qu'on en a beaucoup parlé, il a pris cher l'année dernière, mais finalement, est-ce que Boateng, défenseur central, c'était vraiment pire que Thiago Mendes, défenseur central?
C'est-à-dire que je vais répondre à cette question, non pas par une question, mais presque. J'ai quand même été surpris la saison dernière, pas seulement des prestations moyennes de Boateng, mais qu'un arrière central puisse ne pas, sauf s'il y a une blessure, terminer les matchs et être sorti par son entraîneur à la 75e minute, mais je suis tout simplement choqué.
Donc, parce qu'il n'avait pas fait de préparation.
D'accord. Donc maintenant, cette préparation, puisque tu nous donnes la raison, elle a été faite. Et ce Boateng, s'il y a un poste qui pourrait lui aller, c'est le poste d'axial de libéraux d'une organisation à trois avec Thiago Mendes sur sa droite et Lukoba sur sa gauche. Sinon, je ne vois pas d'autre formule. Mais en plus de ça, Peter Boss, qui est peut-être allé têtu avec ses histoires que je trouve stupides, je veux mourir avec mes idées, mais il vaut peut-être mieux que tu vives avec les idées un petit peu déformées quand même, tu vois, ce qui serait bien pour tout le monde. Et on n'est pas obligé de dire « j'abandonne ce 4-3-3 pourri là ». Mais non, au contraire, tu viens de faire quand même un assez bon match, c'est le résultat qui est pas... Mais là, l'adversaire, c'est Messi, Neymar, Mbappé, tous ces joueurs-là. Donc, tu peux très bien
changer et sans abandonner le 4-3-3. Et ce n'est pas interdit dans un match, avec un effectif et les 5 changements possibles, de démarrer dans une formule et de terminer avec une autre.
Et d'ailleurs, parenthèse, contre Monaco, au moment où l'OL s'est retrouvé mené 2-0, il a changé son schéma. Alors, ce n'était pas vraiment un 3-4-3 ou un 3-5-2. Il est passé à 3 derrière, mais c'était plus un 3-3-4, quoi. C'était la solution offensive. Mais
disons que ça, et puis tous les autres, c'était que des attaquants.
Voilà. Sans parler des 11 joueurs, il y a quand même un duo qui est intéressant et qui peut être complémentaire suivant la formule. Si tu mets une formule avec une équipe centreuse, je ne sais pas si c'est français, mais le principal, c'est qu'on arrive à se comprendre.
On a compris.
Donc tu mets Dembélé en pointe et Lacazette en 9,5 derrière. Et tes deux centreurs, c'est Malo Gusto d'un côté et Tagliafico de l'autre. Mais tu peux mettre la panique à n'importe quelle équipe, là. Donc ça aussi, je dis, ça ne peut pas et ça ne va pas échapper à Peter. Il a très bien compris que quand il y a la rentrée de Dembélé associée à Lacazette, c'est pas mal comme formule.
Edouard, rapidement et pour conclure sur cette défense, il est dans quel état Boateng? Est-ce qu'il serait éventuellement apte à jouer contre Paris dimanche?
Il est revenu dans le groupe vendredi dernier, donc il va avoir une semaine d'entraînement collectif. Il peut être dans le groupe ce week-end, mais je le vois pas titulaire, sauf s'il fait des gros entraînements, mais peut-être à plus long terme. En tout cas, on nous dit qu'il est dans le projet. Voilà.
Bon, voilà en tout cas pour Thiago Mendes, pour la défense, ces erreurs, ces problèmes qui nous sautent aux yeux. Mais il y a autre chose qui nous interpelle quand on regarde l'OL, c'est les trous d'air qui reviennent souvent pendant les matchs. Y a-t-il un problème physique à Lyon qui expliquerait pourquoi pas le manque de constance? Alors, Edouard, tu as eu des remontées, toi, de certains joueurs directement qui t'ont parlé de la prépa physique de cet été?
Oui, alors ça rejaillit aussi sur, c'est en écho à ce que j'entendais l'année dernière, et quelque part on entend tout et son contraire, mais j'ai entendu par rapport à cet été un joueur qui faisait la première préparation estivale avec le groupe qui dit ben voilà, moi j'ai pas eu de courbature cet été, après le stage, je suis étonné de ne pas avoir été fatigué. Il y en a certains qui se plaignent qu'il y a trop de jours de congé, alors qu'ils ont leurs deux jours, voilà, mais dans la semaine où ils ont un jour, suivant les calendriers, bien évidemment. Mais par exemple, on me dit qu'après le match d'Angers, c'est les joueurs qui ont demandé non pas une prime, mais un jour de congé. Donc voilà, on est un petit peu dans la schizophrénie. Et puis après, quand on pose la question, parce qu'on a déjà posé l'année dernière cette question à Peter Bosz, il nous dit, mais les data nous expliquent que tout va bien. Et d'ailleurs, le match de mercredi soir, les joueurs ont mieux fini que Monaco. Donc voilà, et par rapport aux jours de repos, dernière donnée, vous savez, il y a la grande trêve du mois de novembre. Pour l'instant, dans le calendrier, là où la plupart des entraîneurs ont mis 15 jours de congé pour tout le monde, à l'OL, ça va être 12. Voilà, donc on entend un petit peu tout et son contraire par rapport à ça, et notamment donc la préparation à l'ancienne, on va dire à la lyonnaise, et puis une préparation plus néerlandaise désormais, une préparation intégrée.
Eh ben tiens, justement, on va rentrer dans le détail de cette préparation intégrée avec Guillaume Thora, ancien préparateur physique à l'Olympique lyonnais. Salut Guillaume.
Bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous aujourd'hui dans ce podcast. Bonsoir, After Lyon, merci d'être là. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer concrètement, c'est quoi la différence entre la prépa, ce qu'on appelle classique, qu'on a beaucoup connue, et la fameuse prépa intégrée de l'Olympique lyonnais?
Alors, il ne faut pas stigmatiser l'Olympique lyonnais et de dire que c'est la préparation intégrée de Lyon. Il y a beaucoup de clubs qui fonctionnent aujourd'hui avec ce système-là, avec le principe de tout intégrer, c'est-à-dire que tout se fait avec ballon. Voilà, c'est ce qui est décidé d'être mis en place à Lyon, mais je me répète, ça se fait aussi dans beaucoup de clubs aujourd'hui.
Et c'est quoi alors le principe? C'est ce que tu dis, c'est le ballon, toujours le ballon, il n'y a pas de course sans ballon, quoi, c'est ça?
Normalement, si on dit tout intégré, il n'y a aucune course sans ballon. Ça se fait à partir de création ou d'exercice ou de jeux réduits ou de jeux un peu plus élargis. Et on va se fier à ce que a dit le coach, peut-être Peter Bosz comme d'autres. On se fie aux data pour dire ben, la séance à telle intensité, avec tant de courses, tout simplement.
Et Roland, déjà, ton avis là, qu'est-ce que... Toi, c'est, les prépas, quand tu étais coach, c'était les prépas classiques.
Mais c'est-à-dire que déjà, ce n'était pas moi le responsable de ces prépas, mais par contre, j'ai toujours été passionné et intéressé pour discuter avec ceux qui ont vraiment les compétences de la préparation physique. Et après,
je donnais mon avis quand même, même avec un peu moins de compétences, ça n'empêche pas une certaine logique. Quand j'entends parler qu'il faut faire un entraînement ou qu'il faudrait faire un entraînement, je ne sais même pas comment ça s'appelle.
Préparation intégrée.
Ah voilà, préparation intégrée, ça veut dire que si tu t'entraînes pendant une heure et demie, il doit y avoir un ballon, sinon tu es désintégré. Donc ok, pas de problème, je m'adapte. Mais si par exemple tu me proposes une préparation d'une heure et demie et que le ballon c'est que 1h10, 1h15, et que pendant un quart d'heure, désolé les joueurs, il n'y a pas de ballon pendant un quart d'heure. Sur un terrain de football, il y a évidemment la possibilité de faire des jongleries, la possibilité de faire des dribbles, mais il y a la possibilité aussi de faire des appels. Et les appels, ils sont sans ballon. Donc si par exemple aussi, des fois, tu t'améliores ta course sans que tu sois emmerdé avec un ballon et que tu peux gagner quelques... Allez, je dirais quelques secondes dans tes courses, je vois pas à quoi ça pourrait poser un problème. Ensuite, j'ai même vu d'un certain préparateur physique que j'ai eu la chance d'avoir avec moi, des exercices aussi qui, sur leur plan athlétique et musculaire, il y avait de la musculation. Et tout de suite après l'exercice de musculation, la possibilité de faire allez, un dribble entre les trucs, une jonglerie et une passe. Mais oui, pourquoi pas ? Mais ne tombons pas dans le... Excusez-moi, d'une extrémité à l'autre, ce qui pour moi serait de tomber dans le ridicule.
Guillaume Thora, toi qui connais les deux préparations, qu'est-ce que tu peux nous dire des conséquences de la préparation intégrée ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu beaucoup ? Et surtout les effets de cette préparation intégrée ?
Alors les effets, je les vois à travers les autres clubs, parce que pour être limpide, moi personnellement, je suis associé, je suis plus dans le registre décrit par coach Courbis, et je m'intègre avec les desiderata du coach principal et les objectifs communs que l'on a à mener l'équipe pour le match. C'est là aussi où je rebondis indirectement sur la fameuse périodisation tactique mise en place par nos amis portugais. Comme si nos entraîneurs français n'avaient pas l'habitude de faire de la périodisation tactique depuis des années.
Prenez ça, ami portugais.
Mais ça, c'était un petit aparté. Mais au-delà de ça, moi, je vois ça à travers l'intégré. L'intégré veut dire aussi, c'est du spécifique tout le temps. Et à partir du moment où on ne fait que du spécifique, il ne faut pas se plaindre ou s'étonner à un moment donné que ça pète dans tous les sens. Parce qu'il n'y aura pas eu, alors communément appelé, le fond qui a été mis en place, les répétitions de courses sans ballon, parce que le chrono, à un moment donné, lui, il ne triche pas. Quand un joueur doit aller de la ligne A à la ligne B, avec un temps à faire, il faut qu'il le fasse. Et on n'est pas perturbé par le ballon. On fait la course, on a l'intensité, on a le sprint qui va avec. Et voilà, c'est clair, limpide. Après, je reviens et je me répète, je suis partisan, comme dit coach Courbis. Il faut à un moment donné enlever les chaussures, remettre les baskets ou garder les chaussures de foot, mais il faut aller taper dedans. Et après, il reste 1h15, 1h20, on s'en fout, 1h25 d'entraînement. Et il y aura tout loisir de faire du ballon sans souci.
Ben oui.
Sans souci.
Édouard.
Oui, c'est quoi la mode finalement, Guillaume, actuellement dans les grands coachs, ceux qui gagnent, des Jürgen Klopp, Pep Guardiola ou Julian Nagelsmann ou Conte ou Zidane, Zinedine Zidane qui a fait venir Pintus qui à l'époque était à Lyon recruté comme préparateur physique et finalement 10 jours après sa nomination il est parti en CDI au Real Madrid, ce qui ne se refuse pas bien évidemment. On est quoi ? On est dans la méthode nouvelle intégrée ou ancienne ?
C'est ce qu'on a voulu mettre en avant, et puis l'appellation méthode nouvelle, mais ancienne, un peu le vintage revient toujours à la mode, donc peut-être que ça va revenir au plus vite, sortir l'intégré complet de sa grande tendance. Voilà, c'est la nouvelle vague, on fait avec. Après, il faut se méfier, moi je pense qu'il y a beaucoup de dangerosité. Les joueurs se plaisent, je ne dis pas se complaisent, se plaisent dedans parce que c'est facile. On est tout le temps avec le ballon, il faut faire gaffe parce que dans les jeux, c'est trompeur, parce que dès qu'on est en format joué, eh ben, le format joué amène des comportements footballistiques et on ne faut pas leur jeter la pierre, c'est le jeu qui appelle le jeu. Donc un défenseur central va se retrouver dans son mode de défenseur central et il va faire sa séance comme défenseur central. Donc il faut après regarder les datas et se dire, il a fait son rôle de défenseur.
Mais il ne faudra pas lui remettre un surplus derrière parce qu'on considère qu'il n'aura pas fait sa séance ou, comme on dit souvent, tricher. Mais les joueurs aiment beaucoup ça actuellement. Et paradoxalement, il y a d'autres clubs qui réussissent et qui sont dans le haut du tableau aujourd'hui au niveau européen. Le Real Madrid en fait partie. Je pense qu'Antonio Pintus, qui est quelqu'un de plutôt discret, mais qui fait cavaler ses joueurs, et ben aujourd'hui, le Real Madrid ne s'est pas trompé. Il récupère les fruits. Il y a Jurgen Klopp aussi. Pep Guardiola a sa méthodologie, dont il prétend que c'est que de l'intégrer, mais je pense savoir qu'il fait un peu d'associé. Sinon, ses joueurs ne courraient moins. Et puis, les grands clubs disposent de joueurs d'un bagage athlétique de très, très haut niveau. Donc, avec un peu de dosage, un peu d'associé, on arrive à les maintenir et les mettre à très haut niveau.
Mais merci beaucoup, en tout cas, Guillaume Thora, d'être venu cette semaine dans le podcast After Lyon pour nous expliquer
Guillaume,
cette prépa.
C'était très intéressant et je suis d'accord à 99,9 avec tout ce que j'ai entendu de ta voix.
Merci.
Ça nous a permis de comprendre
merci, coach.
Ce qu'est cette prépa et effectivement de voir que les conséquences, on peut les voir quelques fois sur les matchs de l'Olympique Lyonnais. Merci Guillaume, à très vite.
Merci à vous.
Salut, à bientôt. Et coach. Oui. Coach, je me souviens quand tu faisais tes préparations avec Toulon à Aix-les-Bains, quand il y avait un petit journaliste qui regardait un petit peu ce que tu fais.
Tu espionnais.
Il me semble que j'espionnais. Il me semble que du côté du golf à Aix-les-Bains, tu avais beaucoup de courbatures, non?
C'était le courbis joueur là dont tu nous parles.
Joueur, ouais. Oh là là. Ouais. T'étais encore joueur à l'époque.
Ah bah ouais,
hein,
ouais.
C'est ça?
Ben oui. Puis en plus de ça, j'étais joueur et arrière central libéraux. Donc. C'était quand même le poste du pépère,
le Thiago Mendes j'arrivais même de Toulon.
J'arrivais même à te suivre, tu vois.
Merci Edouard, coach Courbis.
Juste un petit
beaucoup.
Mot. Ouais. Juste un petit mot. L'OL a proposé une prolongation de contrat à Oussem Aouar. Il est en train d'étudier de 2 ans. Mais pour l'instant, le clan Aouar n'a pas donné de réponse à l'OL, tout simplement parce qu'il attend de savoir s'il a vraiment du temps de jeu ou pas. Pour l'instant, lui qui n'est pas vraiment dans le groupe, il est revenu la semaine dernière. Et puis, autre information de Fabrice Hawkins, Lyon est intéressé par Dan Axel Zagadou, qui est un défenseur central ancien de Dortmund, qui est libre de tout, de tout contrat.
Voilà. Il fera peut-être l'objet d'un futur. Il fera peut-être l'objet d'un futur podcast After Lyon. Merci Edouard, merci
Coach. À la prochaine.
Merci à Jérôme Thomas et Apollo en régie. Et merci surtout à vous d'être fidèles au rendez-vous ou de nous rejoindre. Hein, peut-être si c'était votre première écoute, soyez les bienvenus. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau podcast After Lyon. Ciao.
RMC After Lyon.